Bonsoir à tous et bienvenue pour cet éclairage numéro 9. Avec moi, 4 invités ce soir, j'ai Randall Flag.
Hello.
J'ai Cobal.
Coucou.
J'ai Laurent Doucet, encore lui.
Bonsoir.
Et j'ai Griffou qui revient de... Ah, ça fait longtemps que t'étais pas revenu au final.
Ça fait assez longtemps, mais depuis ça fait le pilote, des éclaireurs.
Ouais.
Oulala, voilà, ça veut dire que ça fait longtemps.
Moi non plus, je t'ai pas revenu depuis longtemps, mais tout le monde s'en fout. Ouais.
Mais toi t'es là tout le temps,
mais toi, t'es
là
partout.
Bon bah, ça nous fait une bonne équipe tout ça, dis donc. Tout va bien ?
Ça pas mal.
Tout va très bien.
Profiter du soleil parisien.
Enfin.
Enfin, on a du soleil à Paris.
Il y en a qui ont de la chance. Hein. Alors, ce soir, nous allons parler de... Alors, Griffou, de quoi tu veux nous parler ?
Je vais vous parler de... Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà causé un petit peu dans je sais plus quel numéro des éclaireurs de Hotline Miami.
L'éclairage numéro 3, si je veux.
Numéro 3, et de Star Trek Into Darkness, que j'ai eu la chance de voir en projection presse. Oh. Donc, j'en toucherai deux mots.
Quel chanceux. Randall Flag.
Eh bien, moi, je vais parler de Batman Dark Return, mais l'anime.
Dark Knight.
Dark Knight Return, j'ai dit quoi ?
Dark Return.
Ah, j'ai oublié le Knight, en effet.
T'as pas bien bossé.
Du film d'animation, mais non pas de la BD de Frank Miller.
Très bien. Laurent ?
Moi, je vais vous parler de Prophet, la série télévisée des années 90.
L'excellent.
Cobal ?
Moi, je vais vous parler de la série de bande dessinée Julius Corentin Hackfack, prisonnier des rêves.
Ouf. On va planer, je crois.
Ouais. Et moi, s'il y a un petit peu de temps, je terminerai en parlant de Puzzle Agent. Alors, juste quelques remerciements avant de commencer. En ce qui concerne l'épisode spécial Mindfuck, où on a bien blabaté avec Arnaud Doucet, Septem, Actarus et Barberousse qui étaient là. Ça a l'air d'avoir bien plu, donc moi je suis assez content, et on risque bien de se refaire ça un de ces quatre, vu que ça a bien marché. Donc on remercie Sidartarus et Osef de Plan B, allez écouter, c'est trop bien. Kikrine, Le Milouze, Trousseb, qui propose même une émission spéciale littérature SF avec Arnaud Doucet, donc j'avoue que ça me tente bien tout ça. Donc je pense qu'on peut commencer, et on va commencer avec Griffou.
Oui. Donc, alors je vais vous parler de Hotline Miami. Hotline Miami, alors très rapidement encore une fois, c'est juste que j'ai envie d'en parler et ouais, j'ai un peu saoulé péremptoire pour ça.
Ouais,
Et alors non, si je voulais en parler, c'est
en plus grâce à toi.
C'est ça. Si je voulais en parler rapidement, c'est aussi parce que le jeu est actuellement en vente sur le Humble Bundle, donc le système de vente de jeux vidéo au prix que vous voulez. Donc vous pouvez acheter plein de jeux
sans DRM.
Surtout,
alors, actuellement, si vous payez 6,62$, c'est assez précis.
Ça fait combien? Ça fait 5€ en gros.
Ça fait moins de 5€, ça va faire autour de 4,50€, je pense.
Griffou, tu donnes pas comme Notch sur Humble Bundle?
Je donne pas comme
Notch?
Ah non, oui, c'est vrai que Notch, le créateur de Minecraft,
à chaque fois.
Donc, pas à chaque fois. Pour THQ, il a été battu par le PDG de THQ. et donc là, sur le Humble Bundle, on a donc Proteus, Little Inferno, Awesome Notes, Capsized, Thomas Was Alone et Dear Ether. Hotline Miami. Donc Hotline Miami, enfin, du coup, j'ai passé mon week-end à jouer à ça, grosso modo.
Ouais.
C'est un petit jeu en 2D qui est juste génial, qui est
vu de dessus,
hyper dur, vu de dessus. Donc on est un peu comme au niveau du style graphique, on se rapproche un peu des GTA 1 et GTA 2, donc les tout premiers, les vieux.
En vue
d'un petit peu plus près. Le but, c'est d'aller de salle en salle pour tuer des méchants. C'est très 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 dur. C'est-à-dire que les méchants, ils vont très vite. En un coup, on meurt. Et c'est vraiment sur le principe du die and retry, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo, donc mourir et recommencer de suite. Et il y a certaines salles qu'on peut passer 40 fois à faire essayer de réussir enfin, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est l'ambiance, un peu entre Drive et du 8-bit, très typé années 80, avec une musique électro géniale. Et je crois que tu vas la mettre à la fin d'ailleurs,
Pérouchou.
Et donc voilà, enfin, moi, ça m'a énormément plu. C'est développé par Denaton Games, qui avait un studio qui avait également développé Keyboard Drum Set Fucking Werewolf. Je ne connais pas du tout, mais le nom me plaît énormément.
Tu reviendras en parler, je pense.
Je sais pas, on verra. Et donc, il est sorti en octobre 2012 sur Windows, le 19 mars 2013 sur Mac, et donc à l'occasion du Humble Bundle, le 28 mai sur Linux, et également sur Xbox et PS3 récemment. Et donc voilà, mais en fait, la vraie œuvre dont je vais vous parler, c'est surtout de Star Trek Into Darkness.
Ouais.
Sachant, je profite que Griffou s'intéresse 15 secondes pour vous rappeler qu'en ce moment, Arte vient de diffuser tous les Star Trek de 1, 2, 3. Alors, on a eu hier soir les 4 et les 5 qui sont un peu à plat.
Le 4 n'existe pas, sachez-le.
Le 4, c'est quand ils reviennent sur Terre, apparemment.
C'est une catastrophe.
En 86.
C'est le pire, je crois.
C'est le pire. Et notre ami le Captain Kirk dit en arrivant sur la Terre des années 80, de 1986, oh là là, c'est des primitifs. Tu m'étonnes.
Alors déjà, avant toute chose, je tiens à m'excuser, je n'ai jamais vu les vieux Star Trek, je n'ai jamais regardé la série, c'est un manque. J'ai essayé d'acheter le voir s'il y avait un pack avec les 11 DVD ou Blu-ray qui étaient édités. Je suis allé à la Fnac ce week-end quasiment pour ça, et en fait il existe, mais il est plus disponible, donc j'y retournerai sûrement bientôt. Le mal sera réparé, mais en tout cas pour l'instant c'est
pas les films n'est pas forcément ce qui est le plus réussi dans les anciennes versions, on va dire.
Mais la série, le problème, c'est que pour le coup, il y a beaucoup trop d'épisodes.
La série,
d'épisodes,
c'est
quoi.
Très très dur.
Voilà, ça va être très long à tout faire. Et puis pour les effets, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est dans la série, les effets visuels.
Bah, la série télé,
avec les monstres en.
Les monstres en plastique, oui.
Voilà,
alors ça. Surtout dans la première série, l'original.
Ouais.
Là, ça pique beaucoup. Après, ça pique un peu, mais de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant dans la série.
Non, je pense que c'est plus l'ambiance, etc. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu dans Star Trek Into Darkness. Donc, Star Trek Into Darkness, excellente liaison que j'ai fait tout seul, bref. Réalisé par J.J. Abrams, qu'on connaît bien pour J.J. Abrams. Avec beaucoup de lens flare. Donc, J.J. Abrams, on vous présente rapidement, c'est le créateur de Lost, c'est le créateur de Alias, si je dis pas de bêtises. De Fringe en série télé, c'est le créateur aussi d'autres séries nettement moins réussies, voilà. C'est également le réalisateur de Mission Impossible 3 de mémoire, c'est le réalisateur de Cloverfield, le producteur de Cloverfield, le réalisateur de Super 8 et le réalisateur de dernièrement de Star Trek, le premier qui est sorti en 2009 et bientôt de Star Wars. En tout cas, de Star Wars épisode 7.
Il commence à avoir un sacré CV.
Ce qui fait peur, c'est Star Trek et Star Wars.
Je vais vous faire le troll ultime. C'est lui le roi des geeks, c'est pas Joss Whedon.
Non, mais c'est les deux pour moi. Enfin, c'est les deux plus Guillermo del Toro.
C'est trois facettes de la
certitude. Donc, le film est scénarisé par Alex Kurtzman, Roberto Orsi, que je ne connais absolument pas.
C'est son équipe habituelle. C'est les mecs
avec
qui
il bosse. Damon Lindelof, qu'on connaît bien. Voilà. Damon Lindelof qui a bossé avec lui sur Lost, quelqu'un qui travaille beaucoup avec Abrams, et donc cette équipe-là avait effectivement déjà réalisé Star Trek de 2009 et le film est au casting on a Zachary Pinto qui joue Spock. Qui était déjà dans le premier film et qui était qu'on connaît pour son rôle
dans Heroes,
ouais, mais j'ai oublié le nom du personnage,
c'est Sylar.
Sylar dans Heroes, le méchant dans la première saison, avec Chris Pine également, donc qui joue le commandant Kirk, avec Carl Urban, avec Zoe Saldana, avec Simon Pegg, Shaun of the Dead, tout ça.
Mission Impossible,
le film sur les extraterrestres, j'ai oublié.
Paul.
Hot Fuzz, qui est génial, mais c'est pas celui-là, le film avec les extraterrestres.
Paul, voilà.
Et avec Benedict Cumberbatch. Alors, Laurent, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Benedict Cumberbatch?
Benedict Cumberbatch, c'est l'acteur anglais en ce moment au top avec Sherlock, avec. J'ai perdu son autre. Ce qu'il a fait aussi.
Le Seigneur des Anneaux?
Le Hobbit, c'est la voix de Smaug.
C'est la voix, ce sera aussi. Les traits du dragon Smaug vont être basés sur la physiologie de Benedict Cumberbatch, apparemment, ouais.
Voilà. Il a joué aussi dans Cheval de Guerre.
Ah, je savais pas.
Donc
le film sortira le 12 juin prochain en France. Il est déjà sorti depuis un moment aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'embargo, j'ai absolument le droit d'en parler, il n'y a pas de souci. Il est en 3D. Comme la plupart des blockbusters. Le film de 2009 n'était pas en 3D, mais apparemment, J.J. Abrams a dit finalement la 3D c'est pas si mal, donc on va le faire en 3D.
Il a peut-être été aussi un peu obligé, je pense.
Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pour ça la 3D est très légère, honnêtement elle se supporte facilement. Il s'améliore de plus en plus, c'est-à-dire que la 3D sert toujours à rien, soyons clairs.
Voilà.
Mais au moins elle n'est pas trop désagréable.
Voilà.
L'histoire, c'est suite à un attentat qui a été perpétré par un ancien agent de la Fédération des Planètes Unies. L'équipage de l'USS Enterprise part pour une nouvelle aventure visant donc à tuer l'auteur de cet attentat qui s'appelle John Harrison.
À le tuer carrément.
C'est pas l'arrêter.
Le tuer.
D'accord.
Et ça a son importance. Donc John Harrison, incarné par Benedict Cumberbatch, qui s'est caché sur une planète Klingon. Suite à leur rencontre, Spock et Kirk vont réaliser que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, qu'il y a un peu de gris, qu'il y a tout ça. Et donc on entre un peu là-dedans. C'est assez intéressant et c'est ce qui m'a pas mal plu. Encore une fois, j'avais pas vu les premiers films. On a pas mal de références à l'ancien univers qui sont pas forcément indispensables à connaître pour les gens qui vont découvrir le film, mais qui peuvent être des plus, qui sont plus des clins d'œil, enfin de l'ordre du clin d'œil quoi. Voilà, qui sont de l'ordre du clin d'œil et qui sont assez amusantes.
Le premier avait un clin d'œil ultime. Alors je vous spoil, hein, je vous l'ai tout
dit.
Oui,
non, et qui est aussi dans le deuxième.
Il y avait Leonard Nimoy qui était dans le premier.
Il y en avait d'autres. Voilà. Hein, il y avait les petites peluches qu'on avait dans les premiers épisodes de la série. Il y avait plein.
Voilà. Mais on se rend compte qu'on est dans un univers parallèle en fait.
Ouais.
L'univers qui a été créé par J.J. Abrams, c'est pas forcément après quel, mais c'est un univers parallèle à celui dans lequel s'est passée la série et les premiers films.
C'était d'ailleurs extrêmement astucieux pour arriver à réconcilier tout le monde, je trouve.
C'est ça.
Oui.
Et donc le film, enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est vraiment, enfin c'est con à dire pour un blockbuster, mais c'est l'action. Ça m'en a mis plein la vue, notamment dans une première, enfin la première scène qui est absolument dantesque. Laurent, qui invite à toutes les avant-premières et tout ça, je sais pas si t'avais vu les 30 minutes il y a quelques mois.
Non, du tout, non. D'accord. 16 ans, j'étais
passé sur
côté.
Terre, c'est ça.
Non, ça se passe pas sur Terre, ça se passe sur une autre planète un peu sauvage. Enfin, il se passe
et on une planète qui est toute rouge, plus dans ou le moins, temps, je crois.
Ouais, enfin en tout cas, il y a un gros volcan et de la végétation autour. Et on a, enfin on en voit des extraits dans le trailer de toute façon, donc vous repérerez assez facilement. Et surtout, on a une vue du vaisseau, donc de l'USS Enterprise, absolument gigantesque. C'est vraiment titanesque, quoi. Ça en met vraiment plein la vue, plein les oreilles. Enfin, c'est très impressionnant. Sinon, le personnage de Cumberbatch est absolument génial. Il est un peu dans le même style que ce qu'il fait dans Sherlock et voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Ça me fait penser le mec surintelligent,
un peu, mais un peu psychotique. Quoi.
Ça me fait penser qu'il aurait été un super Spock. En fait, c'est con.
J'y avais pensé quand j'ai vu la bande-annonce.
Ça aurait été un Spock de génie. Simplement, à l'époque, il n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, et Zachary Pinto était plus tendance, allons dire.
Dans le premier, il s'en sortait très bien, Pinto.
Oui, Pinto s'en sort très bien dans le premier. Chris Pine était chiant dans le premier, par contre. Là, c'est
il était un peu beau gosse de service.
Plus beau gosse, et surtout, il avait vraiment tendance à en faire des tonnes, quoi. Il cabotinait à mort.
Kirk est un peu fadasse. Enfin, c'est une espèce de personnage compliqué à porter, quand même, Kirk, à mon avis. Hein.
Il a un côté poseur de par l'acteur qu'il incarnait au début. Donc,
voilà. Il est obligé de faire l'antithèse de Spock, donc c'est pas forcément évident pour lui. Et là, il est beaucoup plus dans la réserve, justement, parce qu'on a le personnage de Benedict Cumberbatch qui arrive. Ce que j'aime aussi, c'est l'aspect mythologique, donc qui se développe clairement avec les clins d'œil, avec tout ça. Et un truc tout bête, j'avais jamais, à l'époque où j'avais vu le premier, finalement j'étais assez novice en space opéra, c'est-à-dire que j'avais à part Star Wars qui est pas vraiment un space opéra, je connaissais pas grand chose, et entre temps j'ai joué à Mass Effect et ça m'a
l'élimination.
Ça m'a vraiment fait penser à Mass Effect et à tous les bons points de Mass Effect, c'est-à-dire la vie d'équipage, le fait d'avoir plusieurs membres de différentes espèces, etc.
Quand tu les perds
et que chaque espèce ait son vrai univers à lui et tout ça.
Ça m'a vraiment fait penser à ça, et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a donné envie de me replonger dans la série, puisque je la connaissais pas. Et donc voilà, le film pour moi c'est que du bonus, enfin c'est que du plus. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai très peu de points, enfin je vois quasiment aucun qui me vienne à l'esprit
de points
négatifs. La réalisation elle est top, on a beaucoup de lens flare, mais ça c'est du Abrams de toute façon.
Mais moi j'aime bien.
Voilà. Donc c'est un style, hein. Après on les oublie de toute façon, si on n'est pas obsédé par ça, on n'y pense plus au bout d'un moment. Et j'attends vraiment de voir ce que va faire Abrams sur Star Wars.
Je suis un peu inquiet qu'il fasse les deux univers en même temps, mais bon.
Bah c'est pas confirmé qu'il fasse un Star Trek 3, donc peut-être qu'il va s'arrêter pour Star Trek. Il a dit que si jamais Columbia le rappelait, Sony Pictures je crois, Columbia le rappelait pour faire un troisième film, il y penserait, il y réfléchirait, il n'est pas opposé au principe, mais que là pour l'instant il est de toute façon se consacrer à Star Wars. Et alors, un autre petit truc tout bête, dans le premier, donc dans Star Trek de 2009, il avait fait une petite allusion à Star Wars en mettant R2-D2 dans d'une explosion. Là à ma connaissance il n'y en a pas eu, en tout cas je pense que d'ici les quelques semaines, quelques mois,
on va voir. Dans celui de 2009, il y avait tellement de clins d'œil que j'ai trouvé que sur le net.
Alors, Pour info sur les histoires de est-ce qu'il va garder les deux franchises et tout, il a réalisé Mission Impossible 3, il est producteur exécutif de Mission Impossible 4, il a participé activement.
Non mais c'est pas des franchises qui sont aussi proches et aussi
je suis d'accord,
et qui séparent autant les gens que Star Wars.
Sauf que s'il est malin, il a fait sur Mission Impossible 4, il a trouvé un sacré réalisateur en la personne de Brad Bird. Donc il est capable à mon avis de déléguer et de malgré tout de tenir une des deux franchises.
Donc, serait producteur de Star Trek 3 éventuellement.
Il pourrait être producteur de Star Trek 3 et de se trouver un putain de réalisateur pour continuer le
style. Faut trouver le bon.
Ah bah oui, mais bon.
Et la 3D donc était bien gérée.
Ouais, la 3D était franchement la 3D ça passait
Elle m'a convaincu que sur deux films la 3D jusqu'à présent.
Lesquels ?
Qui étaient Avatar et The Hobbit, parce que je pense que c'est le fait d'être en HFR, je pense que ça change la perception de la 3D.
Sans trop diverger, moi, le seul film sur la 3D qui m'a, où vraiment la 3D m'a plu, c'était le drôle de Noël de Scrooge, qui était sorti à peu près en même temps qu'Avatar.
Non, tu déconnes.
Ah, moi, j'avais trouvé vraiment sympa.
Le drôle de Noël de Scrooge, c'est l'époque de Transformers 2, je crois.
Bah non, c'était.
Il est sorti en 3D, c'est sûr.
C'était fin 2009 en 3D. C'était en même temps qu'Avatar.
Oh, non.
Ah si, Laurent, ma main a coupé. Les gens vérifieront
c'est pas grave. Ça me paraissait plus ancien.
6 novembre 2009,
et donc Avatar.
Bah, à peu près en même temps.
C'est l'été
2009, de toute façon.
Non, non, Avatar, c'est avant Noël.
Ah, c'est
10 décembre 2009.
Voilà.
Bon, d'accord, autant pour moi.
Un mois d'écart.
Je pensais vraiment pas qu'Avatar était si vieux que ça, tu vois. C'est un peu con à dire, mais c'est ça.
Avatar donc vient d'arriver sur les services du Deep Canal Play Infinity, donc 3 ans après leur sortie en salle.
Oh, la vache.
Et bim,
voilà.
La belle chronologie.
Chronologie des médias. Il y a un sujet à faire là-dessus d'ailleurs un jour.
Il a déjà été fait, je sais plus dans quel podcast.
Ah bon, bah faudrait que tu me dises.
Ouais.
Bon. Et ça sort quand?
Le 12 juin. Une semaine avant Superman.
Bon, c'est dans 10 jours quoi.
C'est ça, dans 10 jours.
On va passer du temps au cinéma, vu l'été qui s'annonce, tant mieux.
Exactement. Ouais,
le prochain Guillermo del Toro.
Aussi.
Il y aura tellement de trucs à voir cet été.
Comme tous les étés.
On va passer à Randall Flagg.
Mais c'est moi, parler... non ?
Oui, c'est à toi, tu vas nous parler de...
De Batman Dark Knight Return.
Très bien, très bien. Allez, à toi.
Eh bien, Batman Dark Knight Returns, c'est le film d'animation basé sur la BD de Frank Miller, éponyme, qui est une BD en deux parties. Le film d'animation dure du coup 2h30 si on cumule les deux parties. Alors je vous fais un peu j'imagine. Je vous fais un peu le pitch dans un premier temps. Alors la première partie, ça se passe dans un futur assez proche où... Un vieux Bruce Wayne se distrait en participant à des courses automobiles parce qu'il a raccroché la cape depuis longtemps. Ça fait bien 10 ans que Batman n'est pas apparu dans le ciel de Gotham. Mais comme récemment, un nouveau gang de criminels commence à se faire connaître. Ils se font appeler les mutants. Bon, autant dire qu'ils sont pas mutants en fait, c'est leur nom. Hein. Avec Batman, on sait jamais. Et alors qu'en même temps, James Gordon s'apprête à prendre sa retraite, donc Batman remet la cape et repart combattre le crime. Et ce qui est très intéressant, c'est le côté vieux Batman qui se remet au boulot. Alors, dans une deuxième partie qui se passera à la suite, en fait, le retour de Batman a déclenché, on va dire, a réveillé quelques vieux ennemis oubliés.
Ah, ça y est, les ennemis se réveillent et reviennent friter le Batman, ouais.
Il y a quelque chose
un
comme ça.
Un ennemi se réveille.
D'accord.
Voilà, un ennemi, voilà.
Le fameux.
Ouais, je l'ai pas vu.
Pendant ce temps, le gouvernement américain commence à être un peu excédé par le retour de Batman, parce que c'est un peu le retour d'un super-héros qui ne contrôle pas, si tu veux.
Contrairement à
Superman, par exemple, tu vois.
Il a un petit côté anard, un peu, Batman.
Ah, un petit côté même un peu totalitaire, on va dire.
Surtout là-dedans, il est très violent. Enfin, c'est très violent
et un peu réac sur les bords. Mais c'est ce qui est bien dans Batman, justement. Donc du coup, le gouvernement va plutôt demander à ses sbires super-héros, donc à Superman, d'aller calmer la vieille chauve-souris. Voilà un peu ce qui va se passer dans ces deux parties. J'essaye de pas trop vous spoiler, parce que si vous avez pas lu le comic, c'est vraiment très très agréable.
Sachant que la première partie est vraiment basée sur les mutants, la deuxième partie plus sur l'ennemi de Batman et sur le combat avec Superman.
Voilà.
D'ailleurs, je suis en train juste de lire la fiche Wikipédia en même temps, et il y a Wade Williams qui fait la voix de Double Fait.
Voilà, j'allais y venir, merci.
Le mec, il arrive à saboter les sujets de ses invités. C'est, pas mal, c'est quand même énorme. Hein.
Je pensais pas que t'allais en parler.
L'intérêt de faire une émission comme ça, c'est pas de rien avoir à préparer. Il en parle, il le fait quand même.
Ouais, c'est pratique. Donc, j'allais vous en parler. Donc, la fiche, il y a Peter Wellers qui est dans le rôle de Batman. Peter Wellers. Qui remettra Peter Wellers?
Je remets pas. Je, le nom me dit quelque chose, mais je remets pas le nom.
RoboCop.
Ah.
Je vous conseille le superbe podcast de Split Screen sur RoboCop.
Oui, très bien.
Tout à fait.
Et donc, il y a aussi Michael Emerson.
Ah oui.
Qui joue dans Lost et qui joue dans Person of Interest aussi.
Mm. Exact.
Et donc, tu disais, péremptoire.
Il y a Wade Williams.
Voilà, on dira pas qu'il est double, mais il est dedans et dans la deuxième partie, en fait.
Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que. Avant justement de faire Dark Knight Returns, la Warner avait produit un autre film animé, enfin juste avant une adaptation d'une BD DC Comics d'un classique de Batman, c'est Year One, qui était pas terrible du tout. Mais par contre, il y avait un gros point fort, c'est-à-dire que le commissaire Gordon était incarné par Bryan Cranston. Bryan Cranston, c'est le mec qui joue Walter White dans Breaking Bad, le père de Malcolm dans Malcolm, la série. Et ils l'ont pas gardé. Et je trouve ça, pour le coup, c'est assez dommage parce que c'était le seul bon point du film.
Et juste pour revenir sur Wade Williams, décidément, il est habitué à Batman parce qu'il jouait dans Dark Knight Rises aussi. C'était le directeur de la prison de Blackgate.
D'accord.
Ah oui.
Et ouais, c'est pour ça.
Mm-hmm. D'accord.
Donc, il est habitué au rôle dans Batman, j'ai l'impression.
Alors, le dessin animé, là, il a été réalisé par Jay Olivera, qui a fait beaucoup de... Il a fait Green Lantern, il a fait Next Avengers.
On critique pas Green Lantern, s'il vous plaît. J'ai entendu quelqu'un rire.
J'ai jamais accroché à Green Lantern. Oh. A priori, j'ai pas vu donc tous les autres dessins animés, mais a priori, ils ont reçu un moins bon succès critique de ce que j'ai vu.
Ok.
En animé, je crois que Green Lantern s'en sentait pas mal.
Et en comics, c'est top trucs. Aussi. Hein. Le film est une dôme, mais en dehors de ça,
le film est très bien. Mais j'ai commencé à regarder le nouveau dessin animé, la nouvelle série animée. J'ai pas accroché.
Ah, mais elle
est en
3D, c'est tout. Elle est en 3D, c'est pas terrible, je trouve. Ils avaient fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc qui me perturbe un peu.
Ils avaient fait une série animée il y a 2-3 ans, 2 ans peut-être, qui était sortie, enfin, qui avait été diffusée sur France 4, qui était vraiment pas mal. J'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Green Lantern, Emerald's Night, un truc comme ça.
C'est toujours diffusé sur France 4.
Et qui était vraiment
bien. Ce qui est intéressant.
J'avais pas aimé.
Après, on accroche le graphisme ou pas, c'est qu'on comprend, et je pense que c'est ça qui doit être intéressant dans Green Lantern, c'est qu'il y a une mythologie de ouf, quoi.
C'est ça, c'est vraiment ça. Et le graphisme me fait pas mal penser à la série, enfin aux séries des années 90, encore une fois.
La série, tu veux dire
de Bruce Timm. C'est vraiment cette école-là, quoi.
Ouais. Donc la musique est absolument géniale dans Batman Dark Knight Returns. Ça devrait te plaire, Griffou, puisque on y retrouve des trucs qui font énormément penser à Mass Effect.
Ah.
Et les musiques de Mass Effect sont quand même extraordinaires.
Ouais.
Bah oui.
Et il y a même des petits des fois je me suis demandé si c'était pas John Carpenter qui avait fait certaines zik. Ben non, c'est un certain Christopher Drake. Non, c'est les musiques sont vraiment énormes. On retrouve un dessin un peu anguleux comme on retrouvait dans la série de 1992 avec un côté plus réaliste. Et du coup je suis allé voir un peu la BD puisque je l'ai pas lu et en effet, il y a un mélange entre un peu ce côté dont je viens de vous parler et le dessin de Miller.
Ouais, le dessin de Frank Miller qui est très très qui est assez dur en même temps, en fait. C'est-à-dire qu'il est réaliste, enfin j'accroche pas énormément.
Il a pas un trait très net.
Batman c'est une brute par exemple. Batman c'est un tank et on retrouve ce côté tank dans l'animé tout en gardant un peu la fluidité des formes des encore une fois de l'école Bruce Timm, donc des dessins animés Warner des années 90.
Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a parfois quelques animations qui sont un peu... J'arrive pas à trouver le mot, mais peut-être un petit peu rigide parfois.
C'est parce que t'as pas vu Year One, parce que pour le coup, la différence entre les deux, elle est flagrante, et je trouve que Dark Knight Returns s'en sort plus que bien, quoi.
Je trouve que... Ouais, enfin, là, je suis en mode chipotage,
dire. Non, t'as
raison. C'est perfectible, mais c'est quand même super dynamique. Il y a aussi quelques facilités de décor. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de décors qui sont
des fonds, ouais.
Des fonds fixes qui zooment et qui travellent. Hein.
Ouais.
Pour faire des travelling, on va inventer le verbe traveler. Je pense que c'était
traveler, très bien.
Donc le scénar, il y a des surprises assez que j'essaye de pas vous spoiler, qui sont très sympas. Il y a un Batman bien blasé, bien réac et un peu carrément. Vieux. Mais
c'est l'époque où Frank Miller.
C'est exactement le Batman que j'aime bien moi.
Ouais, mais c'est vraiment l'époque où Frank Miller a tourné réac. Et aujourd'hui, il est complètement réac d'ailleurs. Il a sorti un comics chez Delcourt il y a un peu moins d'un an, je crois. Enfin, qui était vraiment un comics anti-musulman au possible. Enfin, c'était où t'es un super-héros qui va dans je sais plus quel pays. Je sais plus quel pays arabe et qui va trucider tous les musulmans. Enfin, qui va taper les terroristes et enfin c'est très.
Je me souviens de Dark Knight qui était sorti dans BD en format européen en 4 volumes. C'est celui-là. Et c'est celui-là où il y a les fils de Batman où il y a une espèce de.
Non, t'as une nouvelle Robin. Dans Dark Knight Returns qu'on connaît pas dans la chronologie normale puisque ça se passe après, mais il y a pas d'enfants de Batman. Les enfants de Batman ils sont arrivés en 2009-2010. Enfin le fils de Batman est arrivé en 2009-2010.
Non, je parlais pas du fils de Batman, je parlais de mec qui se tatouait le symbole de la chauve-souris.
Ah oui, mais c'est ça.
Ouais. Bah alors c'est bien celui-là effectivement qui est un vieux Frank Miller, enfin
qui a été Batman édité chez Panini, qui a été réédité chez Urban il y a pas très longtemps je crois.
Ouais,
donc
on le retrouve encore.
Effectivement c'est pas fun, enfin c'est pas rigolo.
Non mais j'ai en fait avoir un super héros qui est un petit peu négatif, c'est pour ça que j'aime pas trop les super héros. Bah, je supporte pas Superman par exemple. Il est trop gentil, enfin, je veux dire il y a aucun intérêt.
Ça dépend de l'auteur mais
c'est rarement, à part peut-être comment s'appelait Red Son,
c'était Mark Millar, et Superman All Stars de Grant Morrison vaut un peu le coup aussi. Moi, ce qui m'a bien plu, si je permets juste deux secondes dans l'animé, c'est que une des grosses surprises en tout cas de Dark Knight Returns, c'est la Batmobile, la façon dont elle évolue, et on se rend pas compte du mouvement quand on le lit. Par contre, quand on la voit arriver dans l'animé, c'est un tank. Enfin, la Batmobile fait la taille d'une maison, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment
c'est une
un
forteresse
gros
tank. Roulante, quoi.
C'est une forteresse roulante. Enfin, c'est à dire que la Batmobile de la trilogie Dark Knight de Nolan, à côté, c'est une fourmi, vraiment.
C'est ça, c'est une petite voiture, c'est une majorette.
C'est ça.
moi, j'ai trouvé que la deuxième partie baissait un peu en qualité, surtout vers la fin. Enfin, c'est une maladie un peu propre à tous les comics, c'est-à-dire que les auteurs perdent un peu foi en leur truc au bout d'un moment. Enfin, j'ai toujours eu cette impression sur beaucoup de comics. J'ai pris Batman, la cour des hiboux, il n'y a pas longtemps. La suite,
j'ai commencé,
la
c'est suite, très, très, très bien.
Le premier est énorme, la suite...
Il y a la cour 2, je crois, qui a été édité.
Il y a la cour
et
des
ensuite,
2,
il y a
la nuit des hiboux.
Et voilà, d'accord. C'est à partir de la nuit des hiboux que ça devient... Enfin, tu vois que ça marche moins bien. Ouais.
Et la cour des hiboux 2, je peux foncer les yeux fermés, ce sera bon, ce sera bon. Très bien.
Parce que le dessin de Capullo est génial. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc, et c'est par contre, du coup, il y a rien de coupé dans cet animé. Ils n'ont pas ni édulcoré entre guillemets, ou même coupé des scènes.
J'ai vu les previews de la BD en ligne des premières planches de la deuxième partie. C'est pratiquement c'est pas du plan en plan, mais c'est
quasiment.
Scénario est suivi à la lettre.
Ouais, c'est du casse-à-plan presque.
Ouais, ouais.
On retrouve même une particularité qu'on a dans la BD, c'est on va voir des présentateurs télé de temps en temps qui vont parler directement dans une case, et on retrouve ça aussi dans l'animé.
Ah, ça me fait très envie.
Ouais, le comics vaut vraiment le coup. Hein.
Ouais.
Enfin, le comics, le dessin animé vaut vraiment le coup. Le comics, je crois que je vais être obligé de me l'acheter.
Sur 10 chauves-souris, tu lui donnes combien ?
Je lui donne... alors, pour la première partie, j'en mettrais bien 9. Et pour la deuxième, j'en mettrais peut-être... est-ce qu'on peut couper les chauves-souris en deux ? Alors,
ouais,
7 chauves-souris.
Eh bien, ça va.
En fait, ils sont partis de tellement haut que le 2 est vraiment bien, mais... Bah, un poil déçu à cause de ça, mais vraiment ça vaut vraiment le coup.
Et j'ai oublié de te demander, Griffou, mais sur Dylan's Flair, tu donnes combien à Star Trek?
Star Trek 2, donc je sais pas encore.
Pas
8 ou 9.
Et combien tu donnais de Dylan's Flair au premier? De boules brillantes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une boule brillante.
C'est vrai. J'en mettrais. Allez, 7.
7, d'accord. Ah oui.
Pas mal. Très bien, bon. Ce sera tout, Randall Flagg ?
Oui, pour moi, ça sera pour moi tout. Ah si, un petit détail quand même, pour tous ceux qui, comme moi, connaissent pas très bien Batman, on peut attaquer cet arc très facilement. Il y a quelques détails qui m'ont échappé. On voit réapparaître de vieux héros à un moment donné, et ils sont dans un état que tu comprends pas, parce que si tu connais pas le comics...
Mais c'est pas lié à la... Quand c'est sorti, c'était 86, je crois. Ouais. La BD.
Ah oui, c'est 86. Ouais,
c'est très vieux. Okay. Et quand c'est sorti, c'était pas lié à la chronologie classique, donc on pouvait le lire sans connaître les antécédents, voilà, etc. C'est vraiment un arc.
Il y a un moment, tu vois des gens, tu leur dis mais qu'est-ce qui a pu leur arriver ? Et ça, tu le sais. Si t'as pas un peu suivi l'histoire, tu peux pas. Moi, je savais pas. Mais ça ne gêne absolument pas la lecture du truc. Et non. Ça marche très bien.
Ah non, tu peux vraiment te lancer dedans. Après, Year One, c'est un des meilleurs. Enfin, c'est un classique en même temps.
C'est un des héros que je préfère chez DC, Batman, j'arrive pas à tous. Enfin, je connais pas, j'ai jamais suivi Batman, donc c'est très compliqué pour moi de trouver des trucs que j'arrive à suivre, comme la Cour des Hiboux et ça.
Non, mais il y en a cinq, grosso modo, il y a cinq arcs Batman qui sont inévitables. Il y a Urban qui est juste la base pour commencer, t'as Dark Knight Returns, t'as un long Halloween, t'en as quelques autres comme ça. La Cour des Hiboux est très bien pour se lancer sur le relaunch, non, Dark Knight Returns en fait clairement partie, et sans souci, on peut se lancer sans connaître le reste, sans problème.
Et chaque partie coûte 13€ en DVD ou Blu-ray.
Oui, et ils sont vendus, si je dis pas de bêtises, aussi par Urban Comics dans Dark Knight.
Il faut leur faire la pub.
Dans Dark Knight Returns, donc l'édition BD.
Très bien. On va passer à la suite, parce que mine de rien, on est déjà à 30 minutes d'émission, c'est dingue.
Ouais, on s'en avance.
On va passer à toi, Laurent.
À moi.
Alors attends.
Oui.
On va quand même mettre une deuxième fois le jingle pour toi.
Oh non.
Et si. Vas-y.
Bon, j'en peux plus, ce truc. Bref. Je vais vous parler télévision un petit peu. Voilà. Je vais vous parler d'ailleurs, ça va rattacher, ça a été évoqué tout à l'heure. Je vais vous parler de Profit. Profit, une série télévisée des années 90, alors qu'elle a été diffusée en 96 sur la Fox et en 97 sur Canal Jimmy, tout à fait. À une époque où les séries étaient encore considérées vraiment comme une espèce de truc un peu pas terrible et un peu pour ados.
Et heureusement, nous avions Alain Carazé.
Et voilà, où déjà Alain Carazé présentait les choses sur Jimmy. C'est 8 épisodes. Un pilote de 90 minutes et 7 épisodes de 45 minutes. Et c'est écrit par John McNamara et David Greenwalt. Alors, McNamara et Greenwalt vont travailler après. Alors, Greenwalt va travailler sur Buffy, sur Angel. Et McNamara va travailler sur Lois et Clark et Fastlane aussi. Pour vous donner un peu le...
Voilà. Donc, il y en a qui a fait des bons trucs et pas l'autre.
Mais pas l'autre, oui.
Ouais, je sais pas. Oui. Bon, Lois et Clark, il y a quand même Terry Hatcher.
Oh, voilà. C'était bien quand même. Bon. Ah, moi j'ai adoré.
Alors, Profit, qu'est-ce que ça raconte ? Profit, c'est le nom du personnage principal qui s'appelle Jim Profit.
Ah d'accord, ça annonce tout de suite...
Voilà, c'est un employé qu'on voit arriver dans une boîte qui s'appelle Grayson & Grayson, donc une boîte familiale. C'est très important pour la suite. Alors, c'est une multinationale dont, avec tout ce que peut avoir dépeint le capitalisme hyper agressif, j'allais dire des années 90, mais enfin bon, bref. En tout cas, le capitalisme hyper agressif, Profit rentre là-dedans. Et lui n'a qu'un objectif, c'est de monter le plus haut possible. Voilà, c'est d'aller le plus haut possible. Et pour ça, il est prêt à tout. Et on va découvrir ce personnage au cours des 8 épisodes qui est... Alors, il n'est pas méchant.
C'est une ordure.
Non, pas du tout. Il est juste amoral. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a aucune moralité.
C'est un arriviste total.
Pas du tout.
Non, parce que ça veut dire que son but, c'est pas de faire le mal. Son but, c'est d'arriver... Et pour ça, il est prêt à faire le bien, à faire le mal, peu importe, à manipuler tout le monde. Mais en tout cas, il a ça, et c'est vraiment le but. Et c'est un des premiers, parce que la série, donc comme je disais, date de 96, c'est un des premiers vraiment anti-héros.
C'est le pur anti-héros.
Et je trouve, il est plus anti-héros que Dexter, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas la question, mais Dexter, il tue que des méchants. Alors, quelque part, on arrive encore
à lui trouver une excuse.
À lui trouver une excuse ou à s'identifier un peu, à se dire bon, on n'a pas envie qu'il se fasse attraper. Là, Profit va faire des horreurs, va faire vraiment des choses ignobles, des manipulations. Alors, et il va lever des secrets, il va parfois aider des gens, il s'en fout. L'intérêt, c'est que ça le serve lui. C'est ça son intérêt.
Tu t'es pas attaché au personnage du tout.
Bah, c'est compliqué parce que. Mais quelque part, tu le suis quand même avec intérêt parce que tu dis jusqu'où il va.
Oui, en fait, c'est juste un plaisir pervers de se dire pourvu qu'il se fasse pas coincer, tellement il est méchant.
Dans Breaking Bad, le personnage de Walter White est une ordure, enfin, en tout cas, finit comme une ordure.
Il devient une ordure.
Il devient une ordure et ça nous empêche pas de s'attacher à lui.
Voilà. Au début, il a une justification aussi. Alors, j'ai pas vu Breaking Bad, mais au début, il a une justification.
Et surtout, au début, il n'est pas si méchant que ça. C'est petit à petit, c'est la descente aux enfers d'un type.
Voilà, plus ça tourne, voilà. Alors, il va avoir face à lui un personnage qui s'appelle un personnage féminin qui s'appelle Joanne Meltzer, qui est la responsable de la sécurité, qui va enquêter sur lui, parce qu'on va découvrir. Alors, c'est pas essentiel, mais on va découvrir un peu le passé de ce personnage où on va comprendre. Et alors là, je vous spoil sans spoiler parce que ça n'apporte rien, mais il a été élevé de manière ignoble, et il a été élevé dans un carton où on lui jetait de la nourriture, et avec un petit trou dans le carton où il regardait la télévision.
Harry Potter.
Pire.
Ça veut dire que dans l'idée, c'est quelqu'un qui a été élevé par la télévision et donc qui agit comme il est dans les. C'est comme si un gamin avait été élevé et son modèle c'était Dallas, quoi. Donc il va tout réfléchir comme s'il faisait comme Dallas, ça veut dire avec de la manipulation, avec des choses comme ça.
Il est très calculateur.
Énormément. C'est impressionnant à voir, et c'est absolu, et sa limite, c'est ça qui est brillant à voir. C'est alors il y a une inspiration évidente qui est Richard III de Shakespeare, où Richard III va manipuler pour arriver au pouvoir, et surtout Richard III va parler au public dans la pièce de Shakespeare. Là on a une voix off permanente, on a même parfois des face caméra où le personnage va expliquer ce qu'il fait, qu'on le suit en se disant mais comment il va se rater,
est-ce qu'on a ce côté critique de la télévision
on a critique du capitalisme qui est hyper violente. Avec un truc où pour lui, on sent qu'il y a un rapport à la famille compliqué du fait de son éducation, de sa non-éducation, où pour lui, on ne sait pas s'il veut arriver pour avoir le pouvoir ou s'il veut arriver pour être inclus dans cette famille. Parce que voilà, s'il choisit cette entreprise-là familiale, il y a peut-être une raison aussi propre à lui. Alors la série était très écourtée parce que la série n'a pas été du tout bien accueillie. Alors pour vous donner un exemple, il y a une scène dans le premier épisode où une femme qui rentre qui a l'air d'avoir la femme a l'air d'avoir une petite cinquantaine d'années, pas beaucoup plus. Lui il a une trentaine d'années. Je reviendrai sur le casting juste après. Elle arrive, elle l'emballe, et il se roule un patin et tout d'un coup il lui dit bonjour.
Et ça se finit
maman.
Comme ça. L'épisode se finit comme ça.
D'accord.
Le public américain a pas du tout aimé. Alors,
tu m'étonnes.
C'est un peu remanié parce
qu'on comprend que c'est pas si simple que ça.
Moins sa belle-mère, voilà.
À l'époque, il y avait pas encore Game of Thrones aussi. Hein.
Ouais.
Ah, complètement.
C'était pas une chaîne c'était une chaîne à payage ou pas d'ailleurs?
Non, même
la Fox,
pas.
Non, c'est
sur la Fox, oui, c'est vrai.
HBO existait pas,
ils faisaient pas de série à l'époque. Enfin, si, ils en faisaient.
Il y avait pas Soprano. Il y a pas eu les Soprano. Ouais, mais il y avait pas Soprano.
Il y avait Sex and the City, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là.
Mais pas à l'époque.
Voilà, non, tout est venu un peu après. Vraiment, la seule série qu'on avait un peu noire comme ça, c'était X-Files, qui datait de 94. Donc, on est juste 2 ans après le début d'X-Files, hein, et la X-Files était réputée pour être extrêmement noire. Quand on la regarde aujourd'hui, on trouve ça gentil. On voit les décalages qu'il y a eu, mais c'est vraiment ça. Donc, la série a pas marché, donc je crois que même qu'elle a pas été diffusée complètement, enfin, voilà.
Les deux derniers n'ont jamais été diffusés, en fait.
Ouais. Et c'est au cours du temps, après elle a été rediffusée parce comme souvent aux États-Unis, puis elle a été découverte en France, qu'elle a acquis un statut assez culte, de où maintenant on a tendance à dire, c'est des phrases que vous trouvez souvent, en disant que c'était pas le Profit qui était en avant, c'était la télé qui était en retard déjà. Voilà, c'est un petit côté où
elle est arrivée
où, voilà, Profit trop tôt. Alors ils avaient envisagé, pour l'anecdote, parce qu'il va aller assez loin dans cette montée d'hierarchie, de faire s'ils avaient fait une deuxième saison, il aurait commencé à faire de la politique, jamais lui complètement, mais toujours en manipulant les autres. Alors le casting, justement on en parlait, il est porté, parce qu'on imagine bien qu'un personnage comme ça, il faut un acteur de ouf, et il est porté par Adrian Pasdar.
J'adore cet acteur, il a une classe incroyable.
Adrian Pasdar, qui me semble est dans Heroes.
Il a fait une autre série fantastique, Mysterious Ways, voilà.
Voilà, et le mec, il est glaçant, quoi. C'est vraiment un truc extrêmement impressionnant dans la façon dont il fait très très peur, quoi. C'est vraiment très très sombre. Aujourd'hui, c'est reconnu de manière vraiment unanime par la critique. Beaucoup de sériephiles la connaissent, elles la reconnaissent comme quelque chose de réussi. Il y a une photo qui est clinique, qui est 90 à mort dans le côté.
Il y a aussi vraiment hyper froid. L'informatique. Du coup, ça a un peu mal vieilli, puisqu'on.
Ça a un peu vieilli, parce que dans la société, ils se baladent dans l'organigramme de la société, c'est des avatars un peu comme.
Second Life.
Voilà, les vieux trucs un peu comme ça, et quand il arrive à éliminer quelqu'un, la personne explose.
Il y a une représentation virtuelle du bureau chez lui sur son ordinateur.
Ouais, qui fait un peu kitsch. Mais la série garde un petit côté vraiment dur là-dessus, mais qui. Enfin, le. Le reste est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Je recommande de la redécouvrir. Il y a un coffret DVD qui est plutôt bien foutu avec des documentaires, toute la série, avec un petit livret dedans, qui est vraiment bonne. Voilà. Donc je recommande d'essayer.
Il y a un côté aussi dans chaque épisode où tu finis à la fin en faisant non! Le côté voilà. Super surprenant que tu peux retrouver dans des séries.
Il va de plus en plus loin à chaque fois et on se demande jusqu'où il va. Faut y aller, faut oser, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est, même si on a l'habitude de séries beaucoup plus dures, faut quand même oser rentrer dans cet univers. C'est vraiment une dénonciation du capitalisme, parce que c'est hyper bluffant là-dessus. Ouais.
C'est marrant ce que tu dis, ça me fait je sais pas vous, mais je sais pas si tu l'as ressenti, ça me fait penser à American Psycho. Dans le sens où c'est une pire ordure, comment dire. Il est capable de faire les pires choses, mais en public, c'est quelqu'un de très propre sur lui.
C'est vrai, sauf que
peu sociopathe.
C'est vrai, sauf qu'American Psycho, il expulse une espèce de pulsion. Or, j'ai pas vu American Psycho ni.
Une espèce de personnalité.
Mais il manipule pas American Psycho. Je sais pas s'il manipule vraiment.
Moi, il y a un truc qui m'y a fait penser un tout petit peu, c'est House of Cards.
Ah oui, la série Netflix, c'est ça.
Et en fait, tu pourrais imaginer que
dans le dernier Culture Breakdown.
Vu qu'il parle de politique, tu pourrais presque te dire que ça aurait pu être la saison 2.
Voilà. Alors, je vous donne une petite citation entre guillemets pour conclure qui est une voix off dans un épisode qui explique que celui qui pense que dominer autrui est une science se trompe, c'est un art. Voilà. D'accord. Donc il est vraiment dans un truc assez brillant. Essayez de redécouvrir ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un petit côté 90, voilà, dans l'esthétique, ce qu'on dit un peu sur l'informatique et tout. Mais faut s'y replonger. Et puis on voit que malheureusement, il y a beaucoup une critique de la télévision, de la société, de l'économie qui a pas bougé.
Je vérifiais, il y a le syndicat des scénaristes américains qui a publié, je crois, la semaine dernière, me semble-t-il, la liste des 101 séries les mieux écrites de tous les temps. Il me semble pas qu'elle soit dedans, par contre.
Ça m'étonne.
Non,
après,
j'ai vérifié, donc j'ai raison.
Voilà.
Je voulais juste casser ton truc, je suis désolé.
Ah non, mais.
Non, mais en tout cas, je vais effectivement, ça me tourne pas mal.
Avec, pour conclure, un petit générique, peut-être que si Pérouchou nous en passera un tout petit bout.
Arrêtez de m'appeler Pérouchou.
Pardon. Qui dans ce
passera un petit côté, un espèce de musique assez. Voilà, pas, ouais. c'est pas reposant comme série. Par contre, voilà, vous y collez pas un soir de déprime.
Et toute la suite, vous devenez strappé.
Ouais, voilà. Sauf si après vous voulez changer d'orientation ou vous occuper de votre patron, mais bon, après ça vous regarde.
En plus, il y a un côté plan arnaque super complexe qui est intéressant aussi.
Ouais, non, c'est ça finalement qui rend jouissif. C'est pas tant qu'on a envie qu'il y arrive, c'est qu'on a envie de voir comment il va tromper tout le monde. Quoi. Donc voilà, je vous recommande ça vivement. Allez-y en attendant le prochain Game of Thrones là où. Si jamais on vous l'a pas spoilé, voilà, allez-y.
Et moi, comme j'adore Adrien Pasdar, je pense que je vais regarder ça. On va passer à Cobal.
Et oui, est là, je
Cobal
suis là.
On l'entend pas beaucoup.
Je vous écoutais gentiment.
Religieusement.
Oui, religieusement. Tout à fait.
Je crois qu'on a entendu le chat de Cobal, mais je suis pas sûr.
Non.
Oui. Je sais pas si ce sera encore dans l'enregistrement. Eh ben, on va t'écouter, Cobal, maintenant. C'est à nous de t'écouter.
Alors, je vais donc vous parler d'une série de bandes dessinées en 5 volumes qui est parue chez Delcourt et qui s'appelle Julius Corentin, Akfak, prisonnier des rêves.
Ouais.
Alors, c'est une série dont chaque volume est indépendant. C'est une série en noir et blanc, avec qui est dessinée à l'encre, a priori, avec de très beaux aplats de noir. Alors, cette série, on a un petit peu l'impression, pour ceux qui ont lu L'Art Invisible de Scott McCloud, que c'est quelqu'un qui a lu ce bouquin et qui s'est dit, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut...
L'Art Invisible appliqué.
Voilà, exactement, c'est un petit peu L'Art Invisible appliqué. Puisque cette série, enfin, dans cette série, il y a toujours des mises en abîme particulièrement spectaculaires. Alors je vais vous parler un petit peu du premier volume qui s'appelle L'Origine. Donc Julius Corentin Akfak se réveille un matin en tombant de son lit après avoir fait un rêve. Ce personnage vit dans un monde très très kafkaïen. qui est donc c'est donc une espèce de ville tentaculaire dont où il n'y a absolument aucune trace de végétation, c'est vraiment que des immeubles serrés les uns contre les autres, les gens vivent
Oh, le breton.
Mais celui-là.
C'est Brésil, mais en moins cynique, triste, etc. C'est beaucoup plus basé sur l'absurde en fait. Et donc ce personnage travaille au ministère de l'humour où il est chargé de valider des blagues.
Pardon.
Il valide des blagues, c'est-à-dire.
Il serait
que,
pas dans la merde avec Randall.
Et donc, par exemple, il se rend en commission où la blague suivante est racontée. Alors, c'est un homme qui voit un enfant et qui lui dit salut, comment vas-tu, yo de poil? Et l'enfant, ne connaissant pas la personne, lui dit et vous, là,
cet
matelas
enfant,
et
cet enfant, et là, c'est Randall.
C'est ça, voilà.
Et cette blague est rejetée par 16 voix contre et 4 voix pour.
Le truc ignoble, l'humour décortiqué. Quoi.
Et ce personnage trouve, donc Jules Corentin, trouve dans son pupitre une page de bande dessinée qui est en fait la première page de la BD. C'est-à-dire celle où il tombe de son lit après avoir rêvé. Et donc il est très intrigué, il va voir certains de ses amis qui disent oui, on sait pas trop d'où ça réchappe tout ça, et puis il finit par recevoir une autre page de bande dessinée qui est très exactement la scène qu'ils viennent de vivre. Donc là il se dit que de toute façon il ne pourra pas échapper à son destin en quelque sorte, et que si les pages suivantes doivent arriver, ça arrivera quoi qu'il arrive, et il finit par tomber chez un bouquiniste où il trouve l'album contenant le début de ses aventures, mais toutes les autres pages ont été arrachées.
Oh mon Dieu.
Et donc ça se continue comme ça, et là il finit par arriver au ministère de la Recherche. Et il se rend compte qu'il est observé par ce ministère, car eux aussi ont vu certaines des pages en question et en ont déduit tout un tas de théories, comme quoi leur univers ne serait que bidimensionnel et qu'il serait le fruit de la création d'un être tridimensionnel. Et donc après il y a une astuce de mise en page que je ne vous dévoilerai pas, parce que franchement lorsque j'ai vu cette page de BD, c'est la première fois où vraiment j'ai fait un haut sonore en lisant la page surtout. Et c'est franchement fabuleux. C'est la première fois que je voyais une telle chose dans une bande dessinée.
Mais tu parlais tout à l'heure de Scott McCloud, justement,
oui,
qui est un théoricien de la bande dessinée et lui-même dessinateur de BD, donc qui a fait une BD
sur
qui théorise la bande dessinée.
Voilà. Tout à fait.
Et il faut savoir que le mec qui a écrit Julius Corentin
Hackfack, Marc-Antoine Mathieu.
C'est Marc-Antoine Mathieu, qui est juste un grand malade aussi de la théorie de la bande dessinée, qui a dessiné 3 secondes et qui est sorti il y a 2 ans.
Tout à fait.
Qui est une folie aussi, ouais. Et qui raconte pour le coup... Enfin, lui, pareil, aime bien
c'est
théoriser,
récent,
beaucoup faire des expériences en BD. Et en l'occurrence, 3 secondes, ça racontait l'histoire. En gros, c'était une BD à la vitesse de la lumière,
voilà.
Grosso modo. Et c'était
3 secondes
dingue,
de BD vu de différents points de vue.
Voilà. C'est où ça. Chaque, en fait, où chaque.
Pas différents points de vue, c'est-à-dire qu'on suit, c'est-à-dire qu'on est la lumière
qui
va se déplacer d'un point à un autre, qui va se déplacer à travers l'espace, etc. Et au total, donc ça dure 3 secondes. Et donc on va se refléter dans des boucles d'oreilles, dans des assiettes, etc.
Dans l'œil d'un personnage.
Dans l'œil d'un personnage, jusqu'à avoir une vue globale sur la scène.
Voilà. Et tout l'intérêt de la bande dessinée 3 secondes en question, c'est de reconstituer l'histoire qui vient de se dérouler, et c'est assez passionnant. Donc pour reprendre le fil de mon truc, le Donc chacun des volumes de cette bande dessinée peuvent se lire à part.
Et il y en a combien pour l'instant?
Il y a 5 volumes.
Non, il y a un sixième qui vient de sortir.
D'accord. Ouais. Et chacun de ces volumes explore une nouvelle dimension de l'exploration des techniques de bande dessinée. À chaque fois il est très fréquent que le mur entre le lecteur et la bande dessinée soit explosé et voire même piétiné. Vraiment le dessin est magnifique.
C'est un noir et blanc pur, ouais, avec des ombres fortes.
Ça apporte vraiment quelque chose de très très fort, et il y a cet effet un peu échérien dans le traitement avec ces par exemple, il regarde une page qui est la page elle-même. Donc on voit la page dans la page dans la page dans la page dans la page, etc.
Il n'y a pas du tout de nuance de gris aussi.
Voilà, oui, c'est vraiment du noir et blanc qui est vraiment très très beau.
C'est uniquement dessin ancrage.
Et
ça donne vachement envie.
C'est vraiment fabuleux. Chaque volume, comme je disais, explore un truc différent.
Et tu dis que tu peux être lu indépendamment, c'est-à-dire que tu ne suis pas l'histoire de Julius à chaque fois.
C'est à chaque fois une aventure de Julius Corentin.
D'accord.
Mais qui sont séparées les unes des autres.
Et on est autour de 50 pages par album, si je me trompe pas, et c'est édité chez Delcourt.
Ouais, voilà, tout à fait.
Oh, super. BD européenne.
Moi, je veux dire ça. J'adore ce genre de truc en plus.
Encore un truc à acheter.
Je maintiens, ça vraiment évoque le côté mindfuck du truc où à la fin tu sais plus où t'en es, quoi. Tu finis la BD, enfin j'imagine, et tu te dis.
Dans l'un des volumes, la bande dessinée peut se lire dans les deux sens.
Oh là là.
Et je regarde le dessin, il me fait penser à un auteur qui était dans Fuite glaciale, mais dont je me rappelle pas le nom.
Ça me dit rien comme ça, mais.
Je sais plus. Voilà. C'est tout.
C'est déjà énorme.
Moi, ça me fait penser un peu à Adèle Blanc-Seine.
Le côté noir et blanc c'est tardi Adèle Blanc-Seine, c'est moche, Adèle Blanc-Seine. Le côté noir et blanc sans gris, il y a pas de gris, je crois, il y a très peu de gris.
Non, et puis même les visages des personnages très très ronds, très je trouve qu'il y a, bon, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelques ressemblances.
J'aime pas Adèle Blanc-Seine.
C'est bien de voir que de la BD, ce qu'on appelle couramment franco-belge, c'est pas que Tintin, quoi. Ça qui est bien, de voir des mecs, quoi. Je me demande s'il est pas plus compliqué chez les dessinateurs de BD franco-belge de sortir du carcan habituel.
Je pense qu'on devrait arrêter de parler de Fédéral franco-belge, mais plutôt de BD européenne.
Voilà, de BD européenne, mais
comme
je pense
Black
que
ou des
je me demande
comme
si
espagnol.
Ouais. Si le carcan, il est pas plus lourd que parfois dans le comics américain, où ils sont peut-être plus facilement réussi à se lâcher.
Justement, les artistes américains disent même le contraire, qu'ils sont contents de pouvoir faire des choses plus indées, où il y a pas justement, parce qu'aux États-Unis, il y a quasiment que du super-héroïque, pour le coup. Et si tu veux faire autre chose, t'es obligé de passer par un éditeur qui est jugé comme secondaire. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de réussir à vendre tes trucs si jamais tu fais pas du super-héroïque. Donc ils sont contents quand ils arrivent
France,
à faire du vertigo, du image.
Il y a des petites boîtes d'édition genre Macaca et compagnie qui permettent à pratiquement tout le monde d'être édité et d'être aussi visible.
Mais après il n'y a pas de vérification, il n'y a pas tout ça, donc on ne sait pas trop.
Ou alors
ils ont les mêmes visibilités que les gros éditeurs.
Ou alors il faut faire comme l'américain Dave Sim qui a fait la grande série sur... Ah merde, son nom va pas me revenir. Où c'est un espèce de comment dire, de sanglier ou je sais pas quoi.
Defsim.
Ouais, Defsim.
De rien.
Donc c'est un auteur indépendant qui a publié je sais plus 6 ou 7 volumes. Cérébus.
Voilà. C'est pas moi, c'est Wikipédia, mais voilà.
Et qui a publié 6 ou 7 volumes, chacun de 300 ou 400 pages. Lui, il a tout fait tout seul en indépendant, en envoyant à ses lecteurs les volumes par la poste. Et d'ailleurs, ça a été traduit en français, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment un truc très intéressant aussi à voir. C'est High Societies a été traduit, je crois.
Ok. Ok, je voulais juste vous faire partager ça. Du coup, je fais sur la fiche Wikipédia de Luc Besson. Il considère que son surnom, c'est le Spielberg français. Voilà. Merci Wikipédia.
Ouais. Il s'est auto-nominé comme ça.
Non. C'est surnom sur la fiche Wikipédia, le Spielberg français.
Ah là 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 là.
Mais un jour, je vous parlerai de l'adaptation française, l'adaptation en film de Gaston Lagaffe. Ça va être marrant. Faut que je chope la VHS.
Il faut que tu te chopes depuis le temps.
Faut que je trouve ça.
Non, on attend plus que ça, on attend toutes les adaptations de Franco Belge au cinéma.
Mais le problème, c'est qu'il faut passer par Gaston Lagaffe pour ça.
Malheureusement. Ouais. Bon, on va quand même passer à la suite.
Bon, en tout cas, ça donne envie, ça. Hein.
Ouais, je le mets dans ma wishing list, malheureusement.
Il y aura trop de trucs à lire. Bon, on va terminer. Ouais, je vais juste parler d'un truc rapidement, en 5 minutes. Je vais vous parler de Puzzle Agent, je ne sais pas si vous connaissez.
Non. Oh,
quel dommage.
Non.
Et là, nous avons la preuve que Péremptoire est en vacances.
Pourquoi ?
Oh, j'ai le temps de jouer, je suis
pas en
vacances.
Je profite pour parler du truc. Alors, j'ai profité du Humble Indie Bundle spécial Telltale qui est sorti il y a quelques jours. Concord Indie Bundle, où il y avait Walking Dead, acheter le jeu. Back to the Future, il y avait.
Attention, Walking Dead, c'est une clé Steam.
C'est une
Oui, il faut être sur Steam.
Clé Steam. Il faut être sur Steam.
D'accord.
Oui, il faut avoir Steam.
Alors, il y a Poker Night, il y a Sam & Max, il y a Wallace & Gromit et il y a Puzzle Agent 1 et 2. Alors, moi, j'ai donné 10 euros. Ouais, j'ai donné 10 euros, mais.
Il faut rappeler un peu le principe du Humble Indie Bundle.
On donne ce qu'on veut au final. Par contre.
Alors, c'est pas l'Humble Indie Bundle.
L'Humble Bundle, pardon. Weekly, parce que c'est pas des Indies là.
Voilà. Là, c'est le Wiki. Qui est parallèle aux autres.
Et donc, on peut, pour 4$ et quelques, on peut avoir tous les jeux. Et avec The Walking Dead, alors foncez, c'est donné quasiment. Quoi.
Et on part.
Toute la série Walking Dead d'ailleurs. Tous les jeux, je crois que les 5 ou 6.
C'est plutôt 5 ou 6 chapitres d'une même histoire finalement.
Puisqu'il y aurait des saisons 2.
Mais ils ont été vendus séparément.
Ça coûte quand même à la base. 25 euros.
Oui, voilà, donc ça vaut carrément le coup.
Alors, Puzzle Agent, c'est un jeu d'aventure à énigmes et casse-tête. Donc, c'est basé sur une série de bouquins que je connaissais pas. Alors, c'est la série de bouquins Greekle, écrit par Greg Annabel. Donc, je connais pas du tout, mais je pense que j'ai m'y intéressé. Et donc, ça fait penser à Professeur Layton, pour ceux qui connaissent. Donc on a a des tableaux, on clique, c'est du cliquer pointu.
Wikipédia est ton ami, je vois ça.
Ouais, non, mais c'est ce que j'ai ressenti en le jouant.
Je vais citer Péremptoire, je pense, en train de jouer, qui dit « Saleté de notre jardin ».
Ah, t'es en train de tout spoiler. Et donc, c'est du cliquer pointé, donc on clique sur les portes pour entrer dans tel lieu, on clique sur tel endroit pour lancer une énigme. Et donc, le pitch, c'est le FBI qui envoie l'agent Nelson Tethers, et c'est un agent du FBI du département de résolution des casse-têtes. Voilà, ça donne tout de suite le temps.
D'accord,
et donc, il y a aussi, par exemple, il y a le département des crimes contre les fruits et légumes, donc... C'est pour dire l'univers, quoi.
D'accord.
Et donc, il est envoyé à Scoggins, c'est une petite ville dans le Minnesota, donc il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est complètement reculé. Et même les habitants sont un petit peu mystérieux, ils ont des comportements étranges, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, on l'envoie enquêter. Alors, il a son magnétophone, donc il fait souvent des petites notes audio. Et surtout, il a besoin de chewing-gum pour avancer, parce que le chewing-gum, ça l'aide à réfléchir. Voilà, donc,
petit magnétophone, ça serait pas le... Twin Peaks.
Et ben voilà, exactement, c'est exactement ça. Ça m'a fait penser à Twin Peaks. Parce que dans Twin Peaks, le perso, il a aussi son magnétophone, et il a besoin de café aussi, il adore le café. Donc il y a un petit parallèle.
Oui, c'est ça. L'agent Dale Cooper.
Et donc c'est une mission importante parce qu'il doit aller à Scoggins enquêter sur la fabrique, sur une entreprise qui produit des gommes, des gommes à effacer.
Bon, parce que là, c'est pas mâché.
Parce qu'il y a eu un souci dans l'entreprise et l'entreprise est pour l'instant en blackout, donc plus de gomme à effacer. Quoi. Et en fait, c'était l'entreprise qui fournissait toute la Maison Blanche de gomme à effacer. Et à la Maison Blanche, ils sont complètement paniqués parce qu'ils ont plus de gomme à effacer.
Ils ont plus de gomme.
Tu vois, c'est dingue.
Ouais. Et faire un appel d'offres, voilà.
Ils passent en Defcon 3.
Et donc, on a envoyé là-bas enquêter et relancer la production. Et donc, dans l'usine, on apprend qu'il y a un accident, il y a la disparition d'un ouvrier, alors il y a quelque chose de mystérieux qui se trame. Il y a eu toute une histoire avec un mythe local, avec des nains, il y a une fascination pour les nains de jardin, qui enlèvent des gens. C'est complètement bizarre et ça s'appelle Hidden People. On retrouve même une loge, comme dans Twin Peaks. Une loge avec des gens un petit peu bizarres.
Est-ce qu'il y a une femme avec une bûche?
Non, mais il y a une femme. Et elle a une tronçonneuse.
On était pas loin.
Oh la vache.
Il y a peut-être une référence à la bûche avec la tronçonneuse.
Oui, voilà.
Cette situation.
Alors c'est super drôle, franchement, c'est super drôle à jouer. C'est alors super sympa, super facile. C'est pas trop frustrant, c'est pas.
C'est
trop
du pointé cliqué.
Ouais, c'est du pointé cliqué, mais ça se joue en peut-être 4 heures, voire plus si on fait toutes les. Mais c'est court, hein, c'est juste l'épisode 1. Donc quand je.
C'est sorti en 2010.
C'est sorti,
ça
ouais, en 2010, il me semble.
Ce que t'évoquais avec le Layton, c'est-à-dire que t'es pas obligé de faire toutes les énigmes,
on
va dire.
T'as des énigmes
les...
obligatoires pour avancer, mais t'as d'autres qui sont anecdotiques. Mais après, tu peux
d'accord.
scorer, t'as une petite partie de score. Donc. Et à la fin, j'avoue que la fin m'a complètement frustré. Je me suis dit, ah, ça s'arrête comme ça, quoi. J'étais assez déçu. Et j'ai lancé le 2 et je me rends
suite,
en fait. Quoi que j'ai pas entendu.
Bah, je sais peut-être ce que t'allais dire, alors vas-y.
Et je me suis rendu compte quand j'ai lancé le 2 que le 2 était la suite directe du 1.
Ah, voilà,
là, je suis super content. Je vais pouvoir continuer à jouer et on est retour dans la même ville. Et là, on arrive et il y a des gens qui ont disparu, mais des gens qui étaient connus de tout le monde. Et tout le monde te dit, ah, mais non, je connais pas cette personne qui a disparu. Il y a encore quelque chose qui se trame derrière. Et c'est super, super marrant. Je vous le conseille avec le bundle. Hein. C'est, vous payez, vous mettez 5 euros et puis vous avez.
On peut l'avoir à partir de n'importe quelle somme.
Ouais, celui-là, ça appartient à n'importe quelle somme. Si tu veux The Walking Dead, okay. Tu mets à partir de 4,50$. Ça fait
enfin,
3 euros.
Puisque c'est la moyenne qui change.
Ouais, sur une
moi,
dizaine de jeux, c'est ça, quasiment.
Oui,
c'est pas cher, quoi.
Et il faut rappeler que dans les bundles, tu peux choisir où va l'argent.
Oui.
Une partie à ceux
oui.
qui créent
ah, oui,
le bundle, une partie aux développeurs ou une partie à une œuvre de charité.
Exactement. En l'occurrence, l'Electronic Frontier Foundation ou la Child's Play Charity.
Ou pour THQ quand il y avait le bundle THQ.
Oui, aussi.
Voilà.
Lui est
avec
un peu
le succès qu'on lui a. Et bah voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait tout le tour de ce qu'on avait à dire, parce qu'on a déjà une heure d'émission. C'était une chouette émission.
Très
bien. Bien discuté. On va. Où est-ce qu'on vous retrouve, les invités Griffou, on te retrouve. Je sais que tu as une actualité complètement chargée.
On me retrouve sur Twitter @griffou avec 2 F et 4 O sur Culture Breakdown. Donc Culture Breakdown enregistre la semaine
exact.
Prochaine, dimanche prochain, dimanche 9, on sera en live sur
Synapse
Live à partir de 16h.
Mmh. Au complet.
Au complet. Non, Swan, je crois pas sera là. Il me semble pas.
Quoi ? Il n'y a pas Swan. Ça va être une catastrophe technique
Mais il y aura Swan. Ah ben non, justement, on arrive a priori avec les formidables personnes de Synapse Live, on a réussi à faire un truc au top. On n'a plus besoin de Swan, en tout cas pour l'émission. On aura toujours besoin de lui.
D'accord, Swan, vous l'avez viré, d'accord.
On aura toujours besoin de lui pour le montage. Et donc, sinon, vous pouvez me retrouver également sur le Labo, toujours sur Synapse Live, que j'anime avec BTO. Et là, on parle pendant une heure d'un sujet d'actualité avec deux invités. Et le prochain sera a priori la semaine prochaine, ça devrait être diffusé le 16 à 20h sur Synapse Live.
Je vais brosser un peu les chaussures à Geoffroy, mais le dernier labo portait sur la 4G, je crois.
Ouais,
super intéressant.
Et vraiment, quand on demande un peu ce que c'est, parce qu'on voit on voit ça arriver, surtout dans la publicité, et c'est pour en savoir un peu plus, c'était vraiment très réussi, quoi. Vraiment.
Ben, merci beaucoup, ça me touche.
Non, c'est
vraiment. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur tomsguide.fr où je suis journaliste et où j'ai fait un super classement des
40... Ah, tu t'es fait démonter, mon pauvre.
Ah bah oui,
t'as
mais
fait
c'est
quoi
pas grave. 40 films de... On a fait un classement, on a tous voté dans la rédaction sur les 40 meilleurs films de super-héros. Vous pouvez retrouver ça donc, sur tomsguide.fr.
Si jamais il y a Thor dans les premiers, ça va mal se passer.
Thor est bien au fond, tout au fond, vous avez du Elektra, du Catwoman.
Avenger est 25e, je crois, un truc comme
non,
ça.
Non, 19e, Avenger.
19e.
Mais c'est pas de ma faute, c'est les autres.
Ah non, mais c'est intéressant, après, voilà.
Green Lantern, il est où ?
Green Lantern est bien au fond aussi.
Mais de toute façon, sur un sujet comme ça, tu peux pas avoir l'unanimité.
Bah non.
Oh, il y a des films, ceux qui arrivent en tête, je vais pas vous spoiler si jamais, enfin, ça intéresse des gens, mais ceux qui arrivent en tête, pour le coup, étaient tous à 3,5, 5, entre 3,5 et 5 sur 5.
Il y a des surprises des fois sur qui est devant qui, quoi. C'est ça qui surprend.
C'est ça qui est intéressant.
Daredevil, est-ce qu'il est plus haut que machin ? Des fois, on a
des
surprises.
C'est sur Tom's Guide
aussi
que tu as fait quelques comparatifs de montres.
De smartphone ?
De montre, alors pas
quand il fait ça,
on les a pas testés, mais en tout cas un petit état des lieux, des montres connectées. On a fait je fais plein de choses, je fais des trucs plus ou moins intéressants. D'ailleurs le prochain devrait pas l'être tant que ça, mais
je fais des trucs nuls, mais je les fais quand même.
Non, mais je fais des trucs nuls, enfin des trucs, voilà, des trucs sympas, en tout cas marrants à regarder, mais qui n'ont pas un grand intérêt informatif, mais j'écris sur Tom's Guide.fr. Tom's Guide.
Cobal, vas-y, fais ta pub.
Alors, moi, on peut me retrouver sur Twitter, donc @Kobal, K-O-B-A-L. Donc, je fais évidemment mon podcast de jeux de rôle sur Radio Roliste, donc radio-roliste.net.
Avec toute ton équipe.
Avec toute mon équipe. Et d'ailleurs, dans le...
Je les ai vus en live, ils sont trop beaux. Enfin, surtout, hein, mais je dirais pas qui.
Dans le dernier numéro, nous recevions d'ailleurs Tristan Lhomme, l'un des grands anciens du milieu du jeu de rôle français. Sinon, à part ça, on va me retrouver en audio prochainement dans deux épisodes de l'émission de One AI. Dans le One A Club, puisque j'ai fait un petit dossier sur les 75 ans de Spirou, voilà, exactement.
Oh, super émission, One A Club.
Exactement, je suis sûr qu'il tout à fait. Et puis, j'ai remis un peu la main à la pâte dans Indie Gamecast pour de la critique de jeux vidéo indépendants. Voilà.
Ok.
Oh, mais tu es très occupé, Nino.
Très occupé, oui. Hein. C'est dingue. Randall Flack, toi aussi, t'es occupé.
Alors moi, on me retrouve dessus le Twitter @RandallFlack avec un underscore derrière. Sinon, on tombe sur un...
Péruvien.
Qu'on a marre de voir des tweets. Je crois qu'un jour, il a retweeté des arrêtés de me... Je ne suis pas
cette grande célébrité de l'Internet.
On s'est fait gronder. Hein.
C'est ça.
Sinon, vous me retrouvez sur gribouillon.fr où des fois je gribouille des trucs tout moches. Sinon, on me retrouve aussi sur lebidule.org. On me retrouve sur lebidule.org et on me retrouve aussi dans le magnifique podcast Quid Novi.
Ah oui, on se retrouve mercredi soir.
Diffusé sur Synops Live.
Oui, sur Synops Live. Et on se retrouve.
Vous voulez deux jeux de mots pour Rav? Écoutez Quid Novi.
Et on se retrouve mercredi soir en live d'ailleurs, toi, moi, avec les autres compagnons pour un épisode assez spécial, double X.
Ah, ça y est, vous le faites, votre truc cochon, là,
je vais faire un magnifique quiz.
Est-ce que les filles vont être là, au moins? Parce qu'il y en a un peu plus, de quoi avoir les filles.
Il y aura la maudite, il y aura Caninette. Voilà, Apo sera pas là. Et je ferai un magnifique quiz porno ou pas porno, vous allez m'en dire des nouvelles.
Oh mon dieu.
Ah, c'est bon ça.
Ah oui.
Mais avec les bandes son uniquement?
Je pense que je vais pas mettre de bandes son, sinon je vais me faire gronder par Varmerous.
Et par Stan de Synops Live.
Ouais. J'irai pas jusque là. Hein. Laurent, oui, c'est à toi.
Oui,
toi aussi,
alors
t'es
moi dans le.
Débordé.
Pas trop. Dans le désordre. Je commence un peu dans le Blogifan où je fais toujours des petites critiques de séries, de films, où je vous annonce, je vous tease que je vais voir 15 minutes de Pacific Rim très bientôt.
Bien. Enfoiré!
Donc je vais rendre un petit compte rendu des 15 minutes
tu
de Pacific Rim que je vais voir.
Spoil, hein. Voilà.
Bah, dans les 15 minutes, je pense que c'est le début, donc ça l'a spoilé doucement.
Je te dirai pas.
Voilà. Donc ça c'est un endroit. On me retrouve alors dans le Broclash avec mon frère. Donc le Broclash où on s'affronte sur un objet culturel. Pareil, je vous tease parce que faut que je le monte. Donc le prochain va porter sur Moulin Rouge, le film de Baz Luhrmann.
Avant Gatsby.
Et la trilogie du Moulin Rouge, juste avant Gatsby, absolument. Podbox, un petit podcast sur les podcasts, voilà.
Chez FreePod.
Et puis, c'est à peu près tout. On va me retrouver. Le Twitter, c'est Laurent Doucet, LaurentDoucet. Voilà.
Donc, vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter, donc @leséclaireurs, sur www.leséclaireurspodcast.com, sur le flux RSS, sur iTunes, sur tout ça, c'est magnifique.
On attend les éclairages aussi. Hein.
On y est dans les éclairages.
C'est ça,
les éclaireurs, pardon. Merci. Oh là là.
Mais oui, mais
c'est la fatigue.
On travaille dans l'ombre, mais faut que
non,
je
mais Laurent Doucet fait tellement de podcasts qu'il ne sait plus dans lequel il est.
Arrêtez-toi. Ah, moi j'ai un beau souvenir du dossier de Randall sur les ratés de l'informatique,
virages,
ça m'avait plu. Les trucs où les mecs disent non, la souris ça marchera jamais, c'est une idée à la con, laissez tomber.
On va terminer avec, comme musique, j'ai choisi, alors c'est tout trouvé grâce à Griffou qui m'a parlé d'Hotline Miami, je vais mettre le main theme d'Hotline Miami. Et d'ici là, on se retrouve dans une ou deux semaines, je sais pas encore. Allez, salut.
Ciao.
Salut.
Salut.